On a le plaisir de recevoir le maire de Châteauguay, M. Éric Allard. Bienvenue à CHAI.
Bonjour, Sylvain.
On va, tiens, puisqu'on n'a pas eu le plaisir de s'entretenir en octobre, on va revenir un petit peu en arrière, quelques instants, juste pour revenir sur ce qui s'est déroulé en octobre dernier. Il y avait l'histoire des compteurs d'eau, là. Il fallait absolument passer par ça, là, parce qu'il y a des règles obligatoires là-dedans qu'il fallait observer.
C'est certain. Le compteur d'eau, c'est pas une affaire très sexy à parler.
Oui.
Ça inquiète beaucoup de gens. J'en ai parlé plusieurs fois qu'il n'y a pas de taxation qui vient avec ça. De toute façon, ça ne serait pas cohérent. On doit installer 350 compteurs d'eau, puis il y a 19 000 habitations à Châteauguay, donc c'est clairement pas une question de taxation qui vient avec ça. Par contre, c'est une obligation qu'on a du gouvernement. Si on veut continuer à avoir des subventions pour le traitement de l'eau usée de l'aqueduc, on doit avoir...
Il y a des engagements à respecter.
Exactement. On a fait, ça fait presque 2 ans qu'on fait des appels aux volontaires. On en a eu quelques-uns. On a eu environ 40 volontaires. Donc, l'approche de volontarisme n'a pas bien fonctionné. On a envoyé des lettres.
Un peu peur. Finalement, qu'il y a quelque chose de déguisé qui se trame, qui se prépare. Si on dit non, il n'y arrivera rien.
C'est exactement ça. Donc, on a fait plusieurs étapes. On a eu des communiqués qui ont été faits. On a envoyé des lettres à des citoyens. On a fait un paquet d'étapes. Ça ne fonctionne pas. Mais là, on est rendu collé au mur. Le gouvernement va couper dans nos subventions. On doit se conformer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié notre réglementation et maintenant, c'est obligatoire. Donc, si on a fait un tirage au sort, certaines habitations dans chacun des districts pour être représentatifs, c'est vraiment au hasard. Donc, on va envoyer l'obligation et les gens doivent se conformer. On doit faire l'installation, mais ça ne coûte rien. Ça prend environ 30 minutes, là.
Et sinon, est-ce qu'on songe à pénaliser?
Il va y avoir des pénalités. Ils ne vont pas être établis encore. Mais c'est pas... En fait, je compte sur le fait que les gens vont participer.
Donc, il n'y a pas de catch-22, là, si vous me permettez l'expression là-dedans. Alors, si on le fait, c'est ce que, en somme, c'est que cette subvention-là, au niveau du ministère, enfin, du gouvernement, c'est une subvention qui est quand même importante.
Bien, c'est toutes les subventions qu'on a pour l'eau. Toutes les subventions pourraient être bloquées si on n'a pas les statistiques. Parce que c'est seulement pour des fins de statistiques, ces compteurs d'eau-là. Et donc, il faut absolument qu'on puisse donner ces chiffres-là au gouvernement, sinon ils nous ont dit...
Donc, c'est aidez-nous à vous aider. Là.
Exactement. Parce que si on n'a plus de subventions, puis on doit faire des réparations à notre réseau d'aqueduc ou notre réseau d'égout, bien là, c'est directement à la taxation. Là.
Exactement. Donc c'est l'effet contraire. Si on y va pas, ben, on va se faire rattraper.
Ben, c'est exactement ça. Okay. Puis en ce moment, ça ne coûte rien aux citoyens. Là. Les frais sont entièrement assumés par la municipalité. L'installation, ils viennent vérifier si tout est correct, si ça s'installe bien, puis ils font l'installation. Moi, personnellement, ça s'est fait la semaine passée. L'installation, ça fait longtemps que j'étais volontaire. Bon, on attendait d'avoir un certain nombre de personnes qui participaient. Alors, les installations sont commencées. Là, je pense que l'ensemble des membres du conseil, c'est terminé maintenant. Donc, pour vrai... ça fait pas mal,
non.
Mais on n'a pas le choix de passer
par là. On est rendu à combien dans l'objectif? Il en reste combien? Vous avez une idée de combien de...
Qui sont installés? Je n'ai pas les derniers chiffres. Okay. On doit avoir à peu près une quarantaine d'installés.
Alors, ceux qui ont reçu ou qui ont entendu parler de cet élément-là, c'est important d'y aller. Un autre élément important, c'est le comité de négociation avec l'École bleue. Ça aussi, c'est un autre passage qui est important et obligé.
C'est un gros point parce que la convention collective se termine à la fin de l'année et il faut qu'on forme un comité pour débuter les négociations. Donc, ce point-là, à l'ordre du jour du conseil du mois d'octobre, c'était simplement la création du comité. Moi, ce que je veux mentionner là-dedans, c'est que je souhaite vraiment que ça se passe bien puis qu'il y ait une ouverture d'esprit pour qu'on puisse trouver une entente. Au bout de la ligne, c'est pour un service aux citoyens. C'est les citoyens qui payent pour ce service-là, puis je pense qu'ils ont le droit d'avoir un service de qualité. On s'en vient dans la période hivernale. Ça ne me tente pas de revivre la même chose qu'on a vécu l'année passée. Et donc, je compte vraiment sur l'ouverture d'esprit de tout le monde là-dedans pour qu'on trouve une entente. Les citoyens n'ont pas à payer pour ça. Je suis positif. C'est un message positif aujourd'hui. D'après moi, on va réussir à s'entendre. En tout cas, je reste positif.
OK. Alors, tout le monde doit être de bonne foi là-dedans. Bon.
Exact.
On ferme la porte sur octobre.
Ben, en fait, j'aime quand même mentionner que les travailleurs à l'École bleue font un très, très bon travail. L'année passée, on a eu quelques problèmes, mais ce n'était pas la majorité. Et ils sont fiers de leur travail. Il y en a beaucoup qui mettent la main à la pâte, qui sont présents. Ils répondent à chaque fois qu'on fait des appels, puis ils travaillent bien. C'est important de le mentionner. C'est pas juste du négatif.
Ben, c'est des gens qui exercent un métier honorable.
Exact.
Puis qui en sont fiers. Puis c'est tout à fait légitime. Souvent, on va avoir peut-être une opinion pas, mais pessimiste ou galvaudé là, par rapport au col bleu. Et puis, bon, on a un certain cynisme. Mais attention, là, ces gens-là, ils ont à cœur leur ville.
Oh, il y en a plusieurs, en effet.
OK. Alors là, on va passer au mois de novembre, puisque plusieurs éléments sur lesquels là, j'aimerais donc vous entendre. D'abord, règlement de concordance là, avec la MRC Roussillon. Et c'est par rapport au corridor vert. Vous parlez du projet 215.
Du règlement 215.
Règlement 215. Juste nous éclairer là-dessus.
Ça, là. C'est un règlement qui a été fait, ça doit faire 3 ou 4 ans. En fait, je ne me souviens pas exactement. C'est un règlement dans le cadre des poursuites qu'il y a pour le corridor vert. La MRC, la CMM et la ville de Châteauguay et la ville de Léry sont poursuivis pour expropriation déguisée. Il y a eu 2 passages à la cour en ce moment dans le cas de terrain à ville de Léry. Il y en a un premier cas qui était terminé et la ville, la MRC, ont gagné leur point. Il n'y a pas d'expropriation déguisée. Le deuxième a été entendu, j'ai pas le résultat encore. Mais ce que ça dit en gros, c'est que le règlement 215, c'est qu'on parle de conservation viable. À la ville de Châteauguay, on doit se conformer parce que maintenant la loi a été modifiée. Si on ne fait pas de concordance, parce que ça fait longtemps qu'on aurait dû faire la concordance, puis on l'étirait parce que c'est pas un sujet qui est le fun à traiter du tout. La protection du corridor vert, c'est un sujet qui est très, très important pour les citoyens de Châteauguay. Mais bref, nous autres, on a fait le règlement de concordance en ce moment. Ce qui est important, c'est que dans le corridor vert, ce qu'on va autoriser, c'est la construction de 14 habitations par hectare sur 30 % du territoire. Là, c'est un peu technique, tout ça, puis on va avoir une assemblée publique pour l'expliquer. Donc, 14 habitations par hectare sur 30 % du territoire, ça, c'est ce qui a été adopté à Léry. Nous, on a 2 éléments supplémentaires qui se rajoutent à ça. Il y a un PIA. Un PIA, c'est un plan d'intégration architecturale. Bref, c'est comment les constructions se font, comment tout ça s'est déterminé. Ça passe par notre communauté d'urbanisme, DEC. Donc, on a beaucoup d'exigences qui viennent avec ça. Mais le plus gros élément qu'on a par-dessus ça, c'est un plan d'aménagement d'ensemble qui s'appelle un PAE. Le PAE nous dit que si vous voulez avoir le 30 % de construction, les 14 habitations, c'est sur l'ensemble du territoire. Donc, tous les propriétaires privés des terrains doivent s'entendre ensemble pour déterminer le 30 % il est où. Puis, un coup, ça, c'est fait. Il faut qu'il y ait une demande de changement de zonage qui se fasse, donc passer par le processus habituel à la ville. Donc, les citoyens peuvent venir s'opposer et peuvent donner leur opinion. Donc, on a toutes ces choses-là qui sont en place. On n'a pas le choix d'aller de l'avant avec notre règlement de concordance. De concordance, ça veut dire qu'on vient se rattacher au schéma d'aménagement de la MRC. On est obligé de le faire. Et la loi qui a été changée dernièrement dit à la MRC, s'il y a des villes qui n'ont pas fait le règlement de concordance pour les schémas d'aménagement de la MRC, vous devez maintenant refuser toutes les demandes qui lui sont envoyées. Donc, une demande de zonage, un changement de zonage banal, où est-ce qu'on veut, par exemple, avoir du commercial sur 2 étages.
Instantanément.
C'est ça. Nous, on peut passer par le processus de changement de zonage, mais ça doit toujours être entériné à la MRC à la fin. Sinon, ça ne passe pas, on ne peut pas le faire. Donc, maintenant, avec cette loi-là, si on n'a pas le règlement de concordance de 215, la MRC ne traite même pas nos demandes. Donc, on est bloqué, on ne peut plus rien faire.
Très important. Hein?
C'est très important, mais je sais que ça va apporter beaucoup de discussions puis beaucoup d'inquiétudes. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une assemblée publique au pavillon de Lille le 13 décembre, où est-ce qu'on va répondre aux questions, on va expliquer avec des schémas, avec des cartes, avec des tableaux, c'est quoi le règlement 215, comment ça fonctionne, et on va essayer de trouver des moyens de calmer les inquiétudes de tout le monde. Moi, j'avais envoyé aux gens de SOS Fernand Séguin ces règlements-là avant qu'on les passe en séance du conseil. Moi, je suis très ouvert à ces discussions-là, à ces échanges-là. D'ailleurs, j'en avais eu beaucoup auparavant et je vais continuer de le faire dans ce sens-là.
Bon, j'imagine qu'il y en a peut-être qui craignent qu'il y ait des échappatoires là-dedans, puis qu'il y ait des embrouilles, puis que, bon, ça vient un peu mélanger l'essence même du projet comme tel.
Exactement.
OK. Bon, un autre élément important, et on parle de grosses sommes d'argent, les assurances pour ce qui est de la municipalité. Écoutez, c'est assez spectaculaire. Déjà, on connaît la somme à la base, mais là, il va falloir trouver d'autres façons parce que là, ce que vous nous soulignez, c'est que l'Union des municipalités du Québec, que vous envoyez magasiner en sorte pour trouver quelque chose qui va être un peu plus abordable parce que là, on voit qu'il y a eu une très grande augmentation. J'aimerais ça qu'on comprenne là, comment ça se fait qu'on est passé à ça. Là.
En fait, on mandate l'Union des municipalités du Québec pour aller faire un achat regroupé avec d'autres municipalités. Parce que les assurances, ça coûte extrêmement cher. En fait, ce point-là, c'était surtout pour vous donner un exemple et bien comprendre la situation budget qui s'en vient. En 2020, nos assurances, les assurances de la ville, coûtaient 600 000 $. En 2023, avec l'achat regroupé avec l'UMQ, donc on paie moins cher, ça monte à 1,1 million. 1,1 million, c'est 500 000 $ de plus en 3 ans pour exactement la même couverture d'assurance. C'est le marché qui est comme ça. C'est, okay. Je veux dire, tout le monde a des augmentations à payer dans leur maison. Les gouvernements ont ça à payer, les villes ont ça à payer. Je m'explique très mal une augmentation de 500 000 $ pour exactement la même couverture, ouais. Mais c'est avec ça qu'on doit...
Là, vous devez composer avec ça.
Exactement, on doit composer avec ça. Donc, pour avoir une idée de grandeur, quand la ville annonce une augmentation de 1 % d'augmentation de taxes, du compte de taxes, ça rapporte à la ville un montant d'environ 620 000 $. Fait que là, imaginez là, une augmentation d'assurance en 3 ans de 500 000 $. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est fini, on n'a pas d'assurance. Là. Tout ce que je voulais souligner, c'est la complexité qu'on a à faire le budget avec tout ce qui augmente partout. C'est incroyable.
On va s'arrêter un instant, puis je vous invite à rester des nôtres, puisqu'on va donc s'en aller dans un autre volet, puisqu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avec le maire de Châteauguay, M. Éric Allard. On se retrouve dans quelques instants.